Réplique Les vies de Montaigne avec Alec Joanna et Antoine Compagnon. Selon Albert Thibaudet, figure centrale des lettres françaises dans l'entre-deux-guerres, qu'Antoine Compagnon a contribué à tirer de l'oubli, il y a deux grandes natures d'auteurs qu'on appellerait volontiers, sans la moindre idée d'une hiérarchie des génies, les auteurs ordinaires et les auteurs extraordinaires. L'auteur ordinaire, écrit Thibaudet, n'est pas l'homme moyen de son pays, mais le délégué excellent et éminent de l'homme moyen, le représentant d'un ordre, un chef de file, le point par où étincelle une famille et qui traduit cette famille en lumière. L'auteur extraordinaire, lui, apparaît au sommet d'une pente abrupte. Il n'est pas un chef de file, mais une file à lui tout seul. À cette catégorie, à cette classe d'inclassable, d'incalculable, d'irréductible, appartient Pascal. Tandis que Montaigne, nous dit toujours Thibaudet, se propose aux esprits comme un révélateur, au sens fut photographe, un révélateur d'eux-mêmes, de leur portrait. Pascal, le grand extraordinaire, Montaigne, le grand ordinaire. À Antoine Compagnon, qui nous a fait passer naguère un bel été avec Montaigne, et Arlette Joanna, sa toute récente biographe, je voudrais demander si cette définition leur paraît pertinente. L'auteur des essais a-t-il traversé les siècles et nous est-il cher entre tous parce qu'il est le grand ordinaire, Arlette Joanna?
Oui, on peut le dire, à condition de prendre le mot « ordinaire » dans le sens que Montaigne lui donnait. Il aurait préféré, je crois, au lieu d'ordinaire, il aurait préféré dire une vie humaine à la place d'une vie ordinaire. Il est en effet, parce que qu'est-ce que cela veut dire, vivre une vie ordinaire de son temps? C'était refuser les voies qui donnaient l'accès à la grandeur, à la réputation. Dans son milieu nobiliaire, c'était l'exploit sur les champs de bataille. Ce pouvait être aussi l'accès à de grandes charges royales. Lui, délibérément, il a choisi de s'affranchir de ses tentations, de ses ambitions, pour se retirer chez soi, au sens non pas seulement de se retirer dans sa maison, mais de se retirer dans son fort intérieur. « Nous ne sommes jamais chez nous », c'est le titre d'un de ses chapitres, « nous sommes toujours au-delà ». Et il opère une conversion, un basculement, les autres regardent devant soi, moi je regarde dedans moi. Et c'est cette expérience libératrice qui fait que il montre que c'est précisément une vie ordinaire qui permet d'atteindre à l'extraordinaire, à la grandeur, parce que elle amène à découvrir un continent inconnu, une foule de pensées, de réflexions, à sentir en soi ce foisonnement réflexif qui est littéralement vivre. Et c'est là qu'il cherche la grandeur, celle que le monde méconnaît, donc l'extraordinaire que le monde refuse et que lui voudrait concilier avec la vie ordinaire.
Antoine Compagnon.
Je vois bien pourquoi Thibaudet propose cette définition. Thibaudet voit Montaigne comme le fondateur d'une tradition française modérée. Il est le modèle des Girondins, il est le modèle des radicaux sous la Troisième République. Et il y a donc, chez Thibaudet, une sorte d'éloge de cette filière qui remonte à Montaigne et qui traverse depuis Montaigne l'histoire de France. C'est celle de la réconciliation. Alors évidemment, l'opposition avec Pascal est toujours un peu surprenante, puisque, après tout, presque tout Pascal vient de Montaigne. Et si Pascal est extraordinaire, ça ne peut être que parce qu'il a lu Montaigne et qu'il y trouve, en effet, non seulement dans la vie, mais dans l'œuvre, des éléments, des faits extraordinaires. Quand on lit la vie de Montaigne telle que Arlette Johanna nous la raconte, c'est une vie extraordinaire pour un homme de la Renaissance, incontestablement. Mais il a réussi à en faire cette œuvre qui est une sorte de miroir où chacun peut se rencontrer et se retrouver.
Alors, je vais me faire ici l'avocat de Thibaudet. Montaigne, le grand ordinaire, je crois que ça peut avoir une signification philosophique, ou plutôt anti-philosophique, anti-métaphysique en tout cas. Dans le dernier chapitre de l'expérience, Montaigne dit ceci, qui illustre, me semble-t-il, très bien le propos de Thibaudet. Des opinions de la philosophie, j'embrasse plus volontiers celles qui sont les plus solides, c'est-à-dire les plus humaines et les plus nôtres. Mes opinions à moi, en conformité avec mon caractère et ma conduite, sont basses et humbles. La philosophie est bien puérile, à mon avis, quand elle se dresse sur ses ergots pour nous prêcher que c'est faire une alliance sauvage, que de marier le divin avec le terrestre, le raisonnable avec le déraisonnable, le sévère à l'indulgent, l'honnête au déshonnête, et que le plaisir physique est une chose bestiale, indigne que le sage la goûte. Donc il me semble qu'il y a quand même chez Montaigne un refus des antinomies sur lesquelles la métaphysique est battue, le terrestre et le céleste, le sensible et l'intelligible, le temporel et le spirituel. Il y a une réhabilitation de la vie elle-même, dans ce qu'elle a de contingent, dans ce qu'elle a de trivial, et donc dans ce qu'elle peut avoir, au regard d'une certaine tradition philosophique, de trop ordinaire. Et vous en parlez d'ailleurs, Arlette Johanna, Montaigne ne craint pas la trivialité, justement, dans l'exploration qu'il fait de lui-même.
Il s'est nommé philosophe imprémédité et fortuit. Il a horreur de ce qu'il appelle la doctrine, tout ce qui est système philosophique qui est aliénant, qui est enfermant, et notamment à son époque, la philosophie à la mode était le néoplatonisme qui rejetait justement tout l'aspect trivial du corps. Or pour Montaigne a cette phrase merveilleuse, la vie est merveilleusement corporelle. Il a insiste sur l'étroite couture entre le corps et l'âme, qui sont deux indissociables. L'homme n'est pas fait d'un côté d'une âme et de l'autre côté du corps. Et il a, dans le troisième livre, en particulier le chapitre 5 sur des vers de Virgile, il célèbre le corps avec ses trivialités, avec sa vulgarité, ses imperfections. Mais ce corps qui est si ridicule, parfois, est aussi la source de jouissance à savourer.
Oui, mais alors justement, la seule toute petite objection que je ferais à votre livre absolument passionnant, Arlette Johanna, c'est que souvent vous appelez Montaigne le philosophe. Vous dites de lui le philosophe, alors qu'il a quand même un rapport problématique, même quasi conflictuel, avec la philosophie, précisément parce que il est du côté de ce que l'existence peut avoir de plus prosaïque face à une tradition métaphysique qui sépare, j'ai parlé de toutes les dichotomies, mais qui sépare notamment l'essentiel de l'accessoire. Et Montaigne ne craint pas l'accessoire, il fait des énumérations sur lui qui sont tout à fait incroyables. « Je ne suis pas excessivement friand de salade ni de fruits, sauf les melons. Mon père détestait toutes sortes de sauces, je les aime toutes. » Et puis vous citez aussi un autre passage où il décrit ses particularités avec une minutie déconcertante. Il ne reste pas nu-tête très longtemps, il préfère se faire couper les cheveux à un autre moment qu'après le dîner. Il défait qu'à heure régulière. Son intestin et lui ne manquent jamais le rendez-vous quotidien qui est au saut du lit. Il n'aime ni faire les enfants qu'avant le sommeil, ni les faire debout. À table, il se passe plus facilement de nappes que de serviettes, car il n'utilise pas beaucoup les fourchettes ou les cuillères. Il apprécie les viandes peu cuites, salées, et le pain sans sel. Il lui arrive de juger les poissons trop faits et trop faibles. ferme. Il a pourtant de bonnes dents puisqu'il a appris dès l'enfance à les frotter de sa serviette le matin à l'entrée et à l'issue des repas, etc., etc. Voilà qui tranche avec les grands traités, les grands systèmes de la philosophie. Voilà pourquoi j'ai un peu tiqué quand vous le nommiez le philosophe, Harley Twainard.
C'est vrai qu'il a. Alors, cette énumération, il y a un aspect provocateur chez Montaigne. Il sait très bien qu'il va heurter, qu'il va choquer, ça fait partie. Mais c'est tout de même une. Il y a sur tout de même une forme d'attitude philosophique, une forme de maïeutique, puisque justement, en faisant cette énumération, il insiste sur la singularité de chaque corps, de chaque être humain qui est corps aussi bien qu'âme. Et donc, je crois que derrière cette énumération qui vise à provoquer, je le répète, il y a dans son esprit aussi la référence au corps politique, le corps politique qui est fait d'un ensemble de corps singuliers. Et il y a là son rapport à la médecine, son rapport à la philosophie, son rapport à la politique. Il entend montrer que tout prescripteur de normes, que ce soit le médecin, que ce soit le magistrat, que ce soit le philosophe, que ce soit le gouvernant, est incapable de produire une loi qui convienne à toutes ces singularités. Et cette façon d'aborder la règle, la loi, ce rapport à la loi, c'est bien une attitude philosophique. Il n'est pas un philosophe au sens où il adhère à un système philosophique, mais il a une attitude de questionnement, de remise en question, qui est, me semble-t-il, aussi le propre d'une attitude philosophique.
Antoine Compagnon.
Moi aussi, j'étais un peu surpris par cette appellation du philosophe adressée à Montaigne, parce que le philosophe, pour Montaigne, c'est Aristote, dont il veut se séparer, et quand il fait l'éloge de Socrate, qui est son modèle, il ne l'appellera pas philosophe. Mais vous avez cité le dernier chapitre, qu'on qualifie souvent de chapitre épicurien. Il y a tout de même un Montaigne métaphysicien dans l'Apologie de Raymond Sebond, qui est le chapitre qu'on peut sans doute dire le plus extraordinaire des essais, puisqu'il est extraordinairement long d'abord, oui, extraordinairement compliqué, et qu'il pose tous les problèmes de la métaphysique et du scepticisme. Montaigne, vous avez appelé cette émission « Les vies de Montaigne », et il faudrait aussi dire « Les philosophies », parce que il y a beaucoup d'écoles auxquelles on a traditionnellement rattaché Montaigne, or elles sont là toutes présentes en même temps. Et s'il y a cet éloge du corps et de l'épicurisme dans les derniers chapitre, eh bien, on va trouver tout autre chose ailleurs, et en effet, ce qu'on peut qualifier de métaphysique et de philosophie.
Oui, mais pour en rester un instant à la typologie de Thibaudet, nous allons aborder d'autres thèmes avec une autre langue. Dans votre livre « Un été avec Montaigne », Antoine Compagnon, vous avez un chapitre qui m'a beaucoup frappé, « La dent tombée ». Il s'agit de la mort, en plus. Un des grands sujets sur lesquels Montaigne médite. Mais justement, il le fait à partir de cet exemple. Voilà une dent qui me vient de choir, sans douleur, sans effort. C'était le terme de sa durée. Et cette partie de mon être et plusieurs autres sont déjà mortes, autres demi-mortes, des plus actives, et qui donnaient le premier rang pendant la vigueur de mon âge. C'est ainsi que je fonds et échappe à moi. Mais cette dent, c'est une magnifique image de la mort dans la vie, de la mort continue, qu'est d'une certaine manière la vie. Mais ça m'a fait penser à un texte de Kundera dans Le Rideau, son essai Le Rideau, un de ses grands essais sur la littérature. Il parle de la prose. Et il dit « Ce mot ne signifie pas seulement un langage non versifié, il signifie aussi le caractère concret, quotidien, corporel de la vie. Le roman est l'art de la prose, et c'est pas une apalissade. Ce mot définit le sens profond de cet art. L'idée ne vient pas à Homère de se demander si après leurs nombreux corps à corps, Achille ou Ajax avaient gardé toutes leurs dents. Par contre, pour Don Quichotte et pour Sancho, les dents sont un perpétuel souci, les dents qui font mal, les dents qui manquent. Sache, Sancho, qu'un diamant n'est pas aussi précieux qu'une dent. » Et Montaigne est du côté de la prose, en ce sens-là. Donc un peu du côté du roman, tel qu'il apparaît, le roman moderne, au XVIe siècle, tel qu'il est même défini par Proust quand il dit du roman qu'il est la muse qui a recueilli tout ce que les muses plus haut de la philosophie et de l'art ont rejeté. Vincent Descombes commente, le roman est du côté du terre-à-terre, du contingent, du périssable. Choisir d'écrire un roman revient à choisir de recueillir dans une forme d'art tout ce que les muses, prétendument plus haut de la philosophie et de l'art, ont rejeté. Il a écrit des essais, mais pas un traité philosophique, mais il a fait cela aussi. Il a recueilli tout ce que les muses, les autres muses, ont rejeté. Donc, il y a un rapport entre la muse de Montaigne et la muse du roman, telle que la définissent aussi bien Proust que Kundera. Et c'est là que revient l'homme ordinaire, si vous voulez.
Oui,
Antoine Compagnon.
L'homme ordinaire, c'est l'homme de la langue vulgaire. Il faut insister sur le fait que Montaigne a choisi d'écrire en français.
Oui.
Et cela emporte beaucoup de conséquences, y compris celle de cette dimension ordinaire de cette prose, de cette dimension non philosophique au sens du traité. Et Montaigne est conscient du fait que cette langue évolue si vite que peut-être on ne le lira plus dans une génération. Et on doit penser à ça quand on lit Montaigne aujourd'hui. Il avait l'idée qu'on ne le lirait plus, qu'on ne pourrait plus le lire tellement la langue changeait vite. Et cette dimension ordinaire est très présente. Oui, je crois qu'on peut être d'accord sur cette proximité de l'essai et du roman. N'oublions pas non plus qu'il invente cette forme de l'essai. Nous parlons oui, quotidiennement de l'essai. Le mot a pris immédiatement en anglais et puis en français. Et c'est une des grandes dimensions de l'invention de Montaigne. Là aussi, extraordinaire.
Oui, extraordinaire. Alors, vous dites un mot là-dessus. Il a écrit en français. C'était un choix audacieux. Et d'autant plus audacieux que la langue maternelle de Montaigne, je crois, vous me confirmerez l'un et l'autre, c'est le latin. Il a vécu son enfance, on lui parlait latin, et il cite des phrases latines, des sentences latines à tout bout de champ. Donc il a une aisance de latiniste qui, pour le coup, et pour nous, est tout à fait extraordinaire, Alain Joannard.
Il a voulu délibérément ne pas écrire en latin. Il voulait être lu. Il voulait... Il le dit souvent, les essais sont un appel à des lecteurs. C'est un appel à l'amitié. C'est un appel au dialogue. J'ai dit que c'était presque comme une bouteille lancée à la mer dans l'espoir que quelqu'un répondrait à son air, aurait son air, comme il le dit, et serait capable de dialoguer avec lui. Les essais sont véritablement une forme... C'est pour ça que je n'aime pas trop le mot roman, parce que c'est certainement pas ce qu'aurait voulu Montaigne. Il a dit qu'il aurait préféré écrire des lettres. C'est vraiment l'échange qu'il souhaite. C'est vraiment lui. Il note. Il est le greffier. Il dit qu'il met en rôle ses pensées. C'est donc il est comme le greffier de ses pensées intimes, de façon à ce qu'elles suscitent les pensées de celui qui le lira et que celui qui le lira puisse converser, puisse échanger avec lui.
Oui, mais quand je dis roman, je ne dis pas des essais, que c'est une œuvre d'imagination, c'est la prose, c'est-à-dire c'est l'ontologie, c'est la même ontologie que celle de Cervantes et que celle de Proust, si vous voulez, c'est-à-dire effectivement prendre en compte le terre à terre, n'avoir aucun mépris pour
bien
la
sûr,
trivialité des
bien
choses.
Sûr.
Voilà,
c'est dans ce sens que je disais. Il écrit en français, mais en n'hésitant pas à recourir au gascon. C'est aussi cette façon d'employer le gascon. Il qualifie, il dit que la meilleure forme de la parole, ce serait une parole soldatesque. Et pour lui, le gascon paraît plus viril que le français. Quand le français n'arrive pas à ce qu'il veut dire, il se tourne vers le gascon, et d'ailleurs son ami Étienne Pasquier lui a reproché ses gasconismes en lui disant qu'il ferait mieux de le corriger, ce qu'il n'a évidemment jamais fait.
N'oublions pas qu'écrire en français, c'est aussi écrire pour les femmes. C'est une dimension très importante des essais, puisque en principe, le latin est plutôt réservé aux garçons, jusqu'à une date assez tardive. Et ça nous amène aussi à des questions sur les relations de Montaigne avec les femmes, qui sont très intéressantes.
Oui, et alors, nous allons en parler, mais je voudrais d'abord m'arrêter à un aspect, un moment extraordinaire dans la vie de Montaigne. c'est-à-dire son amitié avec la Boétie. Montaigne dit, bon, il y a évidemment le célèbre parce que c'était lui, parce que c'était moi, mais aussi cette phrase, à la vérité, si je compare tout le reste de ma vie avec les 4 années qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Une amitié d'une intensité qu'on croit réservée à l'amour. Et dont je crois il n'y a pas de sens à chercher, me semble-t-il, le caractère homosexuel. Une amitié brisée par la mort de la Boétie très jeune. Il avait 33 ans, je crois. Lorsqu'il est mort, alors était-ce d'une dysenterie, était-ce de la peste? Je sais que les biographes hésitent entre ces deux interprétations. Toujours est-il que Montaigne emporte le deuil, d'autant plus que la Boétie a eu cette phrase si mystérieuse, « Donnez-moi une place, donnez-moi une place ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Montaigne, lui, a donné une place, bien sûr. Il est très présent. Mais il y a aussi, me semble-t-il, un immense paradoxe sur lequel je voudrais vous interroger. On connaît la Boétie par l'essai sur la servitude volontaire. Soyez résolus de ne servir plus et vous voilà libre. Michel Onfray, tout récemment, a dit de la Boétie que c'était le Rimbaud de la philosophie moderne. C'est pas un penseur anarchiste, mais il y a une interrogation sur la servitude et on ne voit aucun écho politique de la pensée de la Boétie chez Montaigne. Alors voilà, je voudrais que vous nous éclairiez sur ce paradoxe et de façon plus générale sur la nature de cette amitié extraordinaire, Arlette Joannat.
Je pense que si, qu'il y a un écho de la pensée de la Boétie, il y a même beaucoup d'échos, me semble-t-il, dans les essais. Montaigne, avant de connaître la Boétie, a lu le discours de la servitude volontaire qui circulait dans le milieu parlementaire sous forme manuscrite. Et je pense que Montaigne a été sensible à cette interrogation de la Boétie. Le texte de la Boétie est une invitation à l'étonnement. Il demande à ses lecteurs « Pourquoi obéissez-vous à l'autorité politique ?» Et c'est cette question qui résonne encore aujourd'hui, qui ne cesse de se poser à tout homme. Pourquoi obéit-on ? Pourquoi obéit-on et plus encore, comment obéir sans être aliéné, sans être esclave, sans être serf? Et cette question, quand vous venez de citer « Soyez résolus de ne servir point » et voilà le tyran par terre, la Boétie démontre ainsi que ce qui fait la légitimité du pouvoir, c'est le consentement des sujets. Si ce consentement manque, la légitimité s'effondre et par conséquent l'autorité s'effondre. Or, Montaigne a eu beaucoup d'occasions de mettre cette découverte de la Boétie en pratique, puisque lui a aussi été confronté à cette question, pourquoi obéir au roi? Pourquoi obéir au roi, notamment, quand il inaugure quelque chose d'absolument inouï, qui est la légalisation partielle d'un culte que l'immense majorité des Français considéraient comme hérétique? Pourquoi obéir? Et cette interrogation ne cesse de hanter Montaigne tout au long de sa vie. Et quand il dit je ne veux être l'esclave de personne sinon de la raison, c'est du la Boétie tout pur.
Je crois aussi qu'il y a beaucoup d'échos de ce texte fondateur, séminal, dans tous les essais de Montaigne, la réflexion sur la structure du pouvoir, la réflexion sur sur l'obéissance et aussi sur la liberté. Alors bien sûr, Montaigne sera amené à réagir en raison de l'exploitation par les monarchomaques de ce texte. Et Montaigne n'ira jamais vers une théorie du contrat. Le consentement n'implique pas... ce sont les théoriciens protestants qui considèrent que le souverain a perdu sa légitimité. Et au fond, toute la réflexion politique du XVIe siècle est fondée sur cette question. A-t-on le droit de mettre à mort un souverain qui a perdu sa légitimité? Et comme on le sait, le siècle se terminera par l'assassinat d'Henri III et l'assassinat d'Henri IV au début du siècle suivant. Donc c'est la réflexion qui alimente tout le siècle. Elle vient bien de la Boétie. C'est pourquoi le texte a une telle influence dans ces milieux protestants, huguenots, hostiles aux monarques. Et Montaigne est donc très prudent à cet égard. Le texte de la servitude volontaire n'est pas inclus dans les essais, mais cela n'implique pas du tout qu'il ne soit pas essentiel dans la pensée de Montaigne.
Alors, quand même, Montaigne dit ceci. Il y a, me semble-t-il, il y a grand amour de soi et grande présomption. C'est un mot qui revient constamment chez Montaigne, présomption. Voilà, une autre manière de justifier la typologie de Thibaudet.
Il y a un chapitre ordinaire de la présomption.
De la présomption en plus, fondamental. Mais c'est un leitmotiv. Il y a grand amour de soi et grande présomption à estimer ses opinions au point que pour les établir, il faille renverser une paix publique et introduire tant de maux inévitables et une aussi horrible corruption des mœurs que celle qu'apportent les guerres civiles. Et puis, dans un autre chapitre, ce n'est pas une opinion mais c'est la vérité, le meilleur et le plus excellent gouvernement est pour chaque nation celui sous lequel elle a vécu et subsiste. Sa forme et son utilité essentielle dépendent de l'habitude d'en user. J'estime qu'aller désirer le commandement par un petit nombre dans un état populaire, c'est-à-dire dans une république, ou dans la monarchie une autre espèce de gouvernement, c'est une grave erreur et une folie. Rien n'accable plus un état que l'innovation. Le changement à lui seul crée l'injustice et la tyrannie. On voit là, bien entendu, Montaigne traumatisé par les guerres civiles. C'est le conservatisme de Montaigne. Mais c'est une manière de justifier par la coutume les gouvernements, c'est-à-dire c'est pas la servitude volontaire, c'est le fait que ces gouvernements sont là depuis longtemps et c'est peut-être pas la raison, c'est peut-être pas le meilleur régime en soi, comme le voudraient les philosophes, mais c'est le meilleur régime pour les hommes parce que ça leur évite le pire. Il me semble qu'on est à milieu de la Boétie. Peut-être que je me trompe.
La Boétie propose une théorie de la hiérarchie politique et de l'obéissance. Ce que Montaigne... Mais n'oublions pas que la Boétie n'a pas eu l'expérience des guerres civiles qu'a connue Montaigne. On ne peut jamais oublier que toute la vie adulte de Montaigne, ce sont les guerres civiles. Montaigne sait ce qu'est le souverain mal, il ne sait pas ce qu'est le souverain bien. Et la réflexion de Montaigne... Montaigne est un partisan de l'ordre, ça vous le dites très bien. Ce qu'il craint, c'est le désordre. Et l'ordre doit être maintenu par une série de conciliations. Mais il est certain que pour Montaigne, la coutume, parce qu'elle est usée par les ans, est ce qui protège le mieux les libertés. Alors qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Alors on peut dire en effet que c'est l'un des grands arguments du conservatisme. Je présente parfois Montaigne comme l'inventeur de la théorie de l'effet pervers. Toute réforme a des effets pervers qui finalement sont pires que les maux que nous connaissons.
Oui, là, voilà. Il est sur le plan politique, il est certain qu'il a, pendant les guerres civiles, il a assisté à l'émergence de théories politiques extrêmement hardies qui auraient donné beaucoup de pouvoir à une assemblée représentative, à les États généraux, qui était une assemblée représentative au sens ancien du terme. Donc, aussi bien les protestants que ensuite les ligueurs ont produit des théories qui avaient des conséquences effectivement subversives. Or, Montaigne les rejette, ces conséquences subversives. Mais il n'empêche pas moins qu'il constate que pour qu'une loi soit acceptée, il faut, je le répète, un commun consentement. Or, l'unité de foi qui était considérée jusqu'au milieu du XVIe siècle comme la condition absolument nécessaire de la cohésion du corps politique, cette unité de foi est brisée, elle est détruite. Et il le savait d'autant plus que dans sa propre famille, il y avait des protestants, sa sœur est protestante, son frère s'est très probablement converti au protestantisme. Il avait des amis protestants, des amis qui étaient très chers. Donc il a vécu cette déchirure. Et il sait très bien que cette déchirure n'est plus réparable. Ça, il a pris acte. Il a pris acte de ceci. Donc le consentement en matière de cohésion sur la vérité, sur ce qu'est la vérité religieuse, n'existe plus. Et il ne peut qu'approuver l'essai que font les rois de la coexistence pacifique, de la légalisation partielle de ce culte considéré comme hérétique, parce que c'est le mal qui va permettre, il n'y a pas du tout de tolérance chez lui au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Tolérer pour lui, c'est supporter le moindre mal. Je crois qu'il a pris acte de cette nécessité devant laquelle se sont trouvés les rois. Il a connu la fin de 7 guerres de religion, il n'a pas connu la fin de la dernière, mais après chaque guerre de religion, il y a eu un essai de pacification, un édit de pacification et donc de coexistence pacifique, et il prend acte de cette nécessité. Et alors il a ce mot extraordinaire à propos d'un de ses édits, l'édit de 1576. Il dit que c'est une recette que les rois de France essaient, et ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher, puisque c'est encore extrêmement contesté. Et alors, lui fait le pari que cela va réussir, parce que c'est la seule façon pour lui de restaurer cette volonté de vivre ensemble, cette cohésion. Et il a eu l'expérience dans son voyage, quand il a parcouru l'espace allemand, il a vu dans des villes comme Augsbourg ou Lindau, il a vu coexister des luthériens et des catholiques, il a vu des mariages mixtes, il a vu des églises luthériennes à côté d'églises catholiques, et ça lui sert de pronostic pour espérer que cela va durer, que cela va réussir. Mais il est encore à un moment où il n'est pas sûr du tout. Nous, après coup, on sait que cela réussit, mais lui ne pouvait pas savoir. Il y a un véritable courage dans cet engagement, car il s'est engagé pour faire réussir ces édits de pacification, pour faire réussir cette coexistence pacifique.
Mais alors justement, cette coexistence pacifique, l'unité ne peut plus être fondée sur la foi. Est-ce que ça veut dire que pour Montaigne, elle doit reposer précisément sur la coutume ? C'est-à-dire chacun a sa foi, chacun a sa religion, mais il ne faut pas en tirer argument pour renverser tout le système. Sur quoi ça peut marcher alors ?
Il ne faut pas dire que Montaigne est conservateur, parce qu'il y a tout de même un point sur lequel il est profondément novateur, c'est en plaçant la nation au-dessus des divisions confessionnelles.
Ah, voilà.
Et ça, on ne peut absolument pas soutenir que c'est du conservatisme au moment de la Renaissance. C'est un civisme, une citoyenneté. Hein. Ce n'est pas encore la citoyenneté, mais c'est le pari, et le pari de la nation. Montaigne, évidemment, ne connaîtra pas l'édit de Nantes, puisque c'est après sa mort, la réunification, la conversion d'Henri IV et l'édit de Nantes. Mais Montaigne est de ceux qui, pendant la durée des guerres civiles qu'il a connues, lorsqu'il est maire de Bordeaux, plaide en faveur de cet accommodement, de cette solution moyenne. C'est pourquoi il fait partie des modérés, c'est pourquoi il fait partie de ceux qu'on appelle les politiques.
Oui, mais justement, quand il dit la nation, c'est pas la nation comme contrat, vous l'avez dit, c'est pas un contrat fédéraliste. Est-ce que ça veut pas dire que c'est la nation, dirait-on aujourd'hui, comme histoire, la nation comme culture, qui doit l'emporter sur toutes les argumentaires, les professions de foi, la nation comme culture, plutôt que les professions de foi qui peuvent avoir un effet terriblement diviseur.
Absolument, c'est la nation, je dirais, comme coutume d'abord.
Alors voilà,
c'est très compliqué parce que les coutumes sont superposées à la Renaissance. Il y a les provinces, en Guyenne c'est particulièrement compliqué, mais c'est bien cette histoire commune qui représente la nation.
Il y a un dépassement, comme vous venez de le dire, mais il y a autre chose aussi que la nation. Il y a déjà obscurément en lui l'idée d'État. l'idée d'un espace politique. Quand il fait appel à ce qu'il appelle la raison simple, c'est-à-dire justement cette raison qui est dépouillée de tout emportement partisan, ou encore la raison publique. Il parle aussi de la société publique. Il y a ce dépassement en faveur d'une entité supérieure aux engagements partisans. Quand il dit par exemple qu'il s'attache au roi par un engagement civil, un engagement qui s'adresse au-delà de l'homme, qui s'adresse à l'entité supérieure qu'il représente, à l'intérêt commun, c'est déjà le pressentiment de l'État, c'est-à-dire d'un espace politique qui est neutre religieusement, qui est au-dessus des confessions, et dans cet espace, les confessions diverses peuvent se rencontrer parce que cela les dépasse, parce que c'est un objectif commun qui est au-dessus des différences et qui permet aux différences de coexister. Montaigne, d'ailleurs, n'est pas le seul, il s'inspire, il a beaucoup admiré Michel de Chancelier et Michel de l'Hôpital, et c'est ce que Michel de l'Hôpital a essayé d'inculquer à ses auditeurs dans ses grandes harangues dès 1562. C'est une idée qu'il faudra 8 guerres de religion pour que les Français l'acceptent, mais Montaigne aura contribué lui aussi par son engagement en montrant justement qu'il n'était pas engagé. Il y a une théorie de l'engagement chez lui, un engagement froid, un engagement qui serait dépourvu du zèle, c'est-à-dire de la passion religieuse, un engagement raisonné qui permettent justement de comprendre l'adversaire et même de nourrir de l'amitié avec l'adversaire.
Nous n'avons pas encore cité Machiavel, mais auprès de la Boétie, comme influence déterminante, il faut certainement penser aussi à Machiavel. Et alors Montaigne rejette évidemment profondément tout ce qui est machiavélien ou machiavélique, mais la pensée de Machiavel, c'est une pensée déjà de l'État. Et c'est ça qui l'intéresse chez Machiavel, avec le pragmatisme de la construction d'un État.
Et Machiavel a été le premier, sans doute, à montrer que la construction humaine, la construction des sociétés humaines, ne reposait sur aucun fondement métaphysique. Cela ne représentait pas la volonté de Dieu, cela ne correspondait pas au dessein de Dieu. Et là, sous cet aspect-là, Montaigne est tout à fait d'accord et reprend cette vision. Pour lui, les sociétés humaines ne représentent absolument pas la réalisation d'un dessein divin, mais ce sont des constructions aléatoires qui tiennent parce qu'il y a longtemps qu'elles sont comme ça et qu'il y a une concrétion, les habitudes se sont concrétisées sous forme de coutumes.
On revient à ce qui était dit, voilà. Oui. Une tradition, une longueur de temps à laquelle il est attaché. Et il me semble aussi que l'une des leçons qu'il a tirées de ces guerres civiles, c'est le refus de tout fanatisme. Là, tient la modération de Montaigne. Il est modéré en ce sens qu'il sait garder une certaine distance avec ses propres convictions. Je cite, vous avez dit, l'Apologie de Raymond Sebond, le texte le plus extraordinaire. Deux extraits. « Ce que je soutiens aujourd'hui et ce que je crois, je le soutiens et je le crois de toute ma croyance. Toutes mes facultés et toutes mes forces empoignent cette opinion et m'en répandent sur tout leur pouvoir. Je ne saurais embrasser aucune vérité ni la conserver avec plus de force que je ne fais pour celle-ci. J'y suis totalement engagé, mais ne m'est-il pas arrivé, non pas une fois, mais 100, mais 1000 et tous les jours, d'avoir embrassé quelque autre opinion avec les mêmes instruments, dans les mêmes conditions, opinion que depuis j'ai jugée fausse. » Et cette phrase, que je trouve extraordinaire, vous voyez. « Quoi que l'on nous prêche, quoi que nous apprenions, il faudrait toujours se souvenir que c'est l'homme qui donne et l'homme qui reçoit. C'est une main mortelle qui nous le présente. C'est une main mortelle qui l'accepte. » Alors, je ne sais pas si ordinaire, modération, il y a chez Montaigne une leçon de finitude. Et je crois que c'est...
Vous insistez sur ces passages qui sont fondamentaux dans les essais de Montaigne, sur l'inconstance, le fait que nous ayons des opinions différentes, et précisément cela, ce que Montaigne a bien vu, ce sont ses conversions, où autour de lui, ses frères, ses amis pouvaient changer de camp et faire payer aux autres ces changements d'opinion. Donc il faut tout de même penser qu'il y a une limite chez Montaigne à cette reconnaissance de l'inconstance. Nous pouvons changer d'opinion, mais nous sommes obligés à l'égard de l'autre, qui nous ont connus avant ces fluctuations. Et il y a tout de même là aussi une grande valeur que Montaigne défend, qui est celle de l'obligation à l'égard de l'autre, quelle que soit l'évolution de nos propres certitudes.
Oui, il y a une obligation à l'égard de l'autre, et il y a vis-à-vis de soi l'idée qu'on peut changer et que par conséquent, il n'est pas bon de croire absolument ce que l'on croit.
Il y a une profonde méfiance à l'égard des certitudes. Toute son entreprise a été, toute sa volonté a été de se déprendre des certitudes, parce que une certitude, c'est une aliénation, c'est un esclavage. Il dit qu'on risque d'être collé, c'est le mot qu'il emploie, collé à une certitude, et jusqu'à ne plus pouvoir s'en déprendre. Et c'est un esclavage, c'est une servitude. Et comme son objectif, c'est d'être libre, c'est d'être libéré, justement, affranchi de tout esclavage. Il refuse la certitude. C'est un leurre, la certitude. Il faut savoir en reconnaître la relativité, et c'est à cette seule condition qu'on pourra dialoguer. L'essentiel, c'est de dialoguer. On a fait allusion tout à l'heure à son expérience de maire de Bordeaux. Il a eu l'occasion, justement, pendant son second mandat, il a été maire pendant 4 ans, de 1581 à 1585, mais pendant son second mandat, de 1583 à 1585, il a fait cette expérience de se retrouver l'intermédiaire, le médiateur entre les protestants et les catholiques, le lieutenant général catholique Matignon, le maréchal de Matignon, lui avait demandé d'apporter des informations, des renseignements sur les Huguenots qui étaient à une demi-journée de son château à Sainte-Foy, où la cour d'Henri de Navarre résidait souvent. Donc il s'est trouvé dans la nécessité de servir en quelque sorte d'agent double, d'informateur, puisqu'il devait aller recueillir, mais il devait mettre à profit l'amitié dont il jouissait chez les protestants pour extraire d'eux des informations qu'il apporterait dans le camp catholique. Et alors, il s'est livré dans le chapitre le premier du livre 3 de l'utile et de l'honnête à une réflexion sur la situation ambiguë dans laquelle il s'est trouvé. Il sait très bien qu'on aurait pu, et peut-être l'a-t-on fait, l'accuser de trahison. Or, il s'en défend en disant que la trahison la plus grave, c'est la trahison de la parole. La parole étant ce qui fait justement la société publique, l'essentiel est de la faire circuler, l'essentiel est de faire dialoguer les adversaires, et c'est ce qu'il a fait. Il a donc essayé justement de transcender cet antagonisme de certitude, la certitude des uns et la certitude des autres, ce qui fait d'ailleurs qu'on lui a reproché, comme tout modéré, comme toute personne qui cherche à faire triompher la raison publique, pour reprendre ces termes, au milieu des fanatismes, les guelfes le qualifiaient de gibelin, et les gibelins le qualifiaient
gibelin chez les guelfes, et guelfes chez les gibelins.
Oui. C'était donc une position extrêmement inconfortable, mais qu'il a assumé. Et là encore, le mot modéré pourrait avoir une connotation un peu péjorative, mais la modération à cette époque-là, dans cette époque de guerre civile et d'affrontements meurtriers, c'était une position de courage.
C'était courageux. Oui, et donc, justement, il a été maire Il a eu deux mandats, vous dites, Arnett Joannat, mais c'est après avoir commencé la composition des essais. C'est-à-dire, il s'est retiré
après la publication du livre 1 et 2. Et après le voyage en Italie.
Voilà. Donc il s'était retiré et donc, d'une certaine manière, il est sorti de sa retraite pour s'engager.
Mais la retraite de Montaigne n'a jamais été absolue. Ce sont des allées et retours. Montaigne, c'est ça qui est extraordinaire, et qu'on voit bien dans le livre d'Arnett Joannat, c'est que Montaigne est un homme public, est un homme important, qu'il a eu des ambitions politiques, qu'il aurait souhaité incontestablement être conseiller du roi, un conseiller un peu particulier qui aurait dit au souverain ses vérités, mais Montaigne n'a peut-être que le Parlement de Bordeaux n'était pas son ambition, mais il est clair qu'il avait d'autres ambitions politiques, et il ne faut pas se tromper en lisant les essais.
Il a fait quelques séjours à la cour de France, c'est ça?
Il a
même souhaité être ambassadeur, je crois.
Il aurait pu être ambassadeur. En tout cas, il est allé aux États généraux de Blois en 1588 et il y est probablement allé deux fois. Il avait beaucoup de curiosité pour ce qui se passait à Blois. Et quand il est à Paris en 1588, il fait un très long séjour, presque toute l'année. Il est à Paris. En effet, c'est pour apporter le livre 3 des essais, la nouvelle édition des essais à son éditeur parisien, mais c'est aussi pour être mêlé à un moment des plus intenses de la vie politique du moment. Donc en 1588, il entend encore jouer un rôle, et lorsqu'il retourne chez lui dans les dernières années de sa vie, il sert encore d'intermédiaire entre Henri III. Au début du règne d'Henri IV, il est encore un intermédiaire. Donc Montaigne est un homme politique important. Et lorsqu'on lit les essais, évidemment, il ne faut pas l'ignorer.
Un homme politique important, un grand modérateur, comme vous dites, et ça me fait penser à cette phrase de Sioran, que vous connaissez peut-être. Le drame de l'Allemagne est de n'avoir pas eu un Montaigne. Quelle chance pour la France d'avoir commencé avec un sceptique. Parce que son scepticisme aussi l'habitait jusque dans son engagement, si on peut dire. Ce n'est pas le scepticisme du retrait.
Ce n'est pas le scepticisme du retrait, certainement pas. Il a même été poussé. Il y a une tentative de médiation que l'on ne souligne pas assez, je crois, parce qu'elle était aussi particulièrement audacieuse. Cela se passe probablement quand il est revenu après son retour chez lui, après son mandat à Bordeaux, et puis aussi après sa longue errance lorsqu'il a été chassé de chez lui par la peste, donc certainement au printemps de 1586, alors que la 8e guerre de religion avait recommencé, la plus grave, celle qui allait durer 8 ans, celle qui a été marquée par les terribles excès de ligueur, il a tenté une démarche désespérée, qui pouvait sembler désespérée, essayer de réconcilier le chef des catholiques intransigeants, le duc de Guise, et le chef des Huguenots, c'est-à-dire le roi de Navarre, qu'il avait reçu chez lui au moins une fois à ce moment-là, en 1584. Or, c'était une démarche qu'il a accomplie très vraisemblablement de son propre chef, de sa propre initiative, essayer de refaire justement circuler la parole, rallumer le dialogue entre ces deux chefs ennemis. C'était une démarche hardie, alors que quand, en 1588, il a servi de porte-parole à Henri de Navarre, je pense que là, il était en mission. Je pense que quand Henri de Navarre est revenu chez lui pour la deuxième fois en 1587, je pense qu'il lui a confié justement la mission de se faire le porte-parole de ses ambitions, de ses projets auprès du roi Henri III.
Donc voilà, il ne faut pas mésestimer Montaigne homme politique. Un mot pour finir sur l'homme privé, parce que vous avez fait référence tout à l'heure, et je ne voudrais pas que nous oublions le rapport de Montaigne et des femmes, avez-vous dit. Il a peut-être choisi le français parce qu'il s'adressait aux femmes. Il y a eu cette fille d'alliance, Mademoiselle de Gournay, je crois, qui a été son exécutrice testamentaire. Alors,
Arlette Joanna évoquait tout à l'heure le magnifique chapitre sur des vers de Virgile,
oui,
qui se termine par une profession d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors là aussi, on peut trouver chez Montaigne, évidemment, dans le même chapitre, des traces de ce qu'on appellerait de la misogynie, puisque il reprend un certain nombre des théories qu'on trouve dans l'Antiquité sur la sexualité féminine. Mais il n'empêche que un certain nombre de chapitres des Essais sont dédiés à des femmes. Les lecteurs qu'il envisage pour ses Essais, ce sont pour beaucoup des femmes. Et le rapport avec Mademoiselle de Gournay est évidemment très intense. Hein. Et après tout, nous devons à Mademoiselle de Gournay l'édition de 1595 des Essais, qui est celle que Pascal a lue, celle que Rousseau a lue, c'est celle qu'on a lue jusqu'au début du XXe siècle. Donc toute la tradition des écrivains français et des lecteurs français doivent à Mademoiselle de Gournay les Essais qu'ils ont lus. C'est seulement au XXe siècle qu'on est revenu à un autre texte. Je crois que Mademoiselle de Gournay, qui pendant un certain temps a été mésestimée, dans la dernière période, a été parfaitement réhabilitée.
Je terminerai, si vous voulez bien, par deux citations. Rousseau, qui avec son orgueil extraordinaire écrit « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de sa nature et cet homme ce sera moi. » Montaigne, modéré, modeste, peut-être faussement modeste, je ne sais pas. Et puis, me trouvant entièrement dépourvu et vide de toute autre matière, je me suis offert à moi-même comme sujet. C'est le seul livre au monde de son espèce. Il dit la même chose que Rousseau, mais il le dit sur un tout autre ton. Ce qui nous ramène à l'homme ordinaire dont parlait Albert Thibaudet. Il me reste à vous remercier, Arlette Joanna, pour cette conversation et pour votre livre, Montaigne, publié chez Gallimard. C'est une très belle biographie. Je rappelle, Antoine Compagnon, votre « Un été avec Montaigne », publié en coédition Équateur France Inter, puisque c'est la trace d'une émission sur France Inter. Et aussi, je voudrais signaler que vous publiez un très beau livre chez Gallimard sur les chiffonniers de Paris. Magnifiquement illustré et où on apprend énormément de choses. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Manon Houssin, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.